Bonjour à tous. Alors on va démarrer, on est un peu en retard. On attend encore un peu de monde, mais on va quand même démarrer. Alors, bienvenue à la séance d'information sur les services du Manum. Donc, c'est un peu un nouveau format qu'on lance. On en a déjà fait un pour les collègues qui étaient en train de déposer des projets ANR cette année. Donc là, c'est un peu la deuxième session. C'est un format un peu court, c'est-à-dire que sur à peu près 2 heures, hein, on va essayer de balayer un certain nombre de problématiques de nos services pour vous permettre un peu de découvrir les services du Manum et puis surtout pour échanger, discuter entre nous de ce que vous êtes en train de faire dans vos programmes de recherche, dans votre activité, et qui pourrait faire écho avec ce qu'on fait à Humanum. C'est un format court et c'est un format qu'on va renouveler assez régulièrement sous la forme de ce qu'on va appeler le Humanum Bar, et qui aura lieu sans doute. On va essayer d'avoir une régularité dans cet événement. C'est-à-dire peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. On va voir à partir de la rentrée de septembre quelle sera la régularité. Alors, régularité, c'est important. On va y revenir un peu à la fin de la présentation. C'est que les services d'Humanum et ce qu'on fabrique à Humanum, ça évolue dans le temps. Et ça évolue de façon assez régulière, en fait. Donc, c'est intéressant pour des porteurs de projets, pour des enseignants-chercheurs qui développent des projets qui ont besoin d'outillage et de services numériques. C'est intéressant de venir un peu régulièrement voir ce qu'on fabrique, parce qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, en fait. Et souvent, les gens qu'on croise dans les maisons des sciences de l'homme, par exemple, en province, ils nous voient une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Et puis, bon, des fois, il s'est écoulé pas mal de choses. Et c'est intéressant quand même de faire un point un peu régulier. Alors, je vais balayer rapidement, pour laisser place surtout à l'échange, un certain nombre de points. Donc, Humanum, c'est ce qu'on appelle une infrastructure de recherche. Alors, comme vous le voyez là sur la diapo, c'est une infrastructure qui est financée, portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis qui est organisée autour de trois acteurs, le CNRS, Aix-Marseille Université, qui est en fait notre point d'accroche avec les équipes d'accueil universitaires pour l'ensemble des universités nationales. Et puis le campus Condorcet, où Humanum sera physiquement implanté dès son ouverture. Donc c'est ce qu'on appelle une infrastructure de recherche. Et donc cette infrastructure de recherche, comme la plupart des infrastructures de recherche d'ailleurs, pas uniquement celle en SHS, il se trouve qu'en parallèle de cet après-midi se tient au ministère le rassemblement des infrastructures de recherche nationales et internationales. J'y étais ce matin. Donc les infrastructures de recherche sont organisées de façon différente et elles collent en fait aux différents besoins des communautés qu'elles servent en termes d'outillage. Donc Humanum, c'est une infrastructure de service qui va permettre de stocker des données, de faire des différents types de traitement sur les données, de faire de la diffusion de données. J'entends par données l'ensemble des matériaux que les enseignants-chercheurs utilisent pour travailler. Hein. Humanum, c'est aussi des communautés en fait, d'enseignants-chercheurs qui travaillent avec l'infrastructure pour, en gros, regarder quelles sont les grandes transformations dans les différentes disciplines du champ des sciences humaines et sociales à l'heure des enjeux du numérique. Et donc ces communautés d'enseignants-chercheurs, ça passe par plusieurs formes, et on anime au sein du Manum une de ces formes sous la forme de consortium disciplinaire. Ces consortiums disciplinaires, en fait, travaillent, définissent des standards, des normes, des méthodes de travail, font avancer des méthodologies dans leurs différents secteurs d'activité, et ainsi nourrissent, de par leurs réflexions, de par leurs travaux, ce qu'on fabrique en termes de services à la TGIR. Ce qui était intéressant, ça fait écho à ce qui s'est dit ce matin, à cette journée sur les infrastructures, ou en particulier l'organisation des infrastructures en réseau telles qu'Humanum a été souligné, c'est que les infrastructures de recherche, c'est avant tout des infrastructures qui sont animées par les communautés de recherche. Il faut bien voir ça, c'est que ce n'est pas uniquement, à la différence peut-être des infrastructures de l'IST ou des publications électroniques qui sont là dans un cycle bien rodé de la diffusion des données. Les infrastructures de recherche, c'est surtout des infrastructures dans lesquelles les gens développent des choses et vont apporter leurs problématiques de recherche. Et puis, Humanum a un rôle international très important, puisqu'on participe à différents types de réseaux européens, internationaux. Donc à la fois des réseaux qui sont des réseaux d'infrastructures, et puis on participe aussi à des programmes, à des projets qui sont financés en particulier par le programme Horizon 2020. Et ces programmes, en fait, viennent nourrir là aussi à la fois les services d'Humanum, hein, par la réflexion qui s'y mène, mais aussi Humanum diffuse ses services et commence à ouvrir ses services à l'international par le biais de ces réseaux-là. Donc en fait, Humanum, si on schématise à l'extrême, hein, c'est organisé sous cette forme. C'est ce qui est au cœur de notre activité, c'est le programme de recherche. Alors le programme de recherche, dit programme de recherche collectif, c'est vrai que les services d'Humanum s'adressent plus dans l'ensemble de la gamme pour des programmes de recherche collectif, même si on a des dispositifs qui permettent à un chercheur individuel de stocker de la donnée, de traiter de la donnée. Notre cible, notre cœur de cible, c'est le programme de recherche collectif. Et on va entourer ce programme de recherche collectif avec différents éléments, donc les consortiums, de l'animation de communautés pour faire émerger des pratiques, identifier des besoins disciplinaires qu'on va venir nourrir ensuite avec un ensemble d'outils et de services. Et on va faire résonner tout ça, c'est-à-dire cet ensemble des programmes de recherche, de la concertation collective, des consortiums et de nos services et outils au niveau international. Et les retours qu'on a actuellement de nos participations dans les différents réseaux internationaux sont très positifs. Et on voit qu'il y a des infrastructures qui aimeraient bien s'inspirer de ce qu'on fait à Humanum. On est assez leader hein, ce mixage entre le programme de recherche, les programmes de recherche, la nécessité de passer par des pratiques de communautés scientifiques qui se reconnaissent entre elles. Les historiens ne travaillent pas comme les sociologues, ne travaillent pas comme les archéologues, ne travaillent pas comme les géographes, etc. Et donc ça, c'est important. Donc c'est aussi Humanum, enfin pardon, les consortiums d'Humanum, ils ont donc ce rôle d'expertise, de mise en œuvre de formation sur les données SHS, plus précisément. Ils vont créer des outils aussi, ils vont créer des dispositifs dont certains peuvent venir être opérés par la TGIR Humanum de façon, on va dire, générique pour l'ensemble des communautés. Alors, je vous donne des exemples. Il y a des outils qui sont nés dans des communautés scientifiques. Un gestionnaire de Thésaurus, par exemple, OpenTheso, qui est né chez les archéologues et qui, aujourd'hui, a été instancié à Humanum par Adrien et Joël qui sont derrière là, et il peut être installé pour plein de communautés qui ont envie de créer des référentiels, des taxonomies, des thésaurus, etc. Et les communautés au sein des consortiums font des guides de bonnes pratiques aussi hein, pour s'emparer de ces enjeux-là. Donc il y a plusieurs consortiums hein, plus ou moins disciplinaires ou autour d'objets qui sont en commun dans les sciences humaines et sociales. Donc c'est un enjeu qui est c'est un enjeu qui est fort là-dessus. Il faut que je parle plus fort, peut-être, non. C'est un enjeu qui est fort. Donc, on essaye d'animer hein, cette communauté des consortiums. Alors, Humanum, c'est aussi une infrastructure de service, comme on le disait tout à l'heure. Elle est sur Paris, sur Villeurbanne. On a 3 personnes d'Humanum qui sont à Villeurbanne, au sein de notre partenaire le plus important, qui est le centre de calcul de l'IN2P3 du CNRS. Dans lequel on s'est installé il y a déjà plusieurs années maintenant. En fait, grosso modo, ça fait presque une quinzaine d'années hein, que les infrastructures SHS sont installées au centre de calcul de l'INDP3. Ça va de Open Edition en passant par Humanum et d'autres. On a installé nos serveurs là où il y avait des gens très très compétents il y a plusieurs années pour faire de la bonne électricité, faire du bon froid pour refroidir tout ça et pour nous aider à construire notre infrastructure. Alors même si aujourd'hui on est plus autonome, puisque comme vous le voyez, on a plusieurs personnes qui sont à demeure là-bas, puis on pilote ici depuis Paris l'infrastructure sur Lyon. Ça a été important, ça a été un partenaire important et c'est un gage de fiabilité hein, de notre infrastructure. On est aussi, sans être un pôle, on a aussi un secteur d'activité sur l'archivage des données qui se déroule à Montpellier avec notre partenaire qui est le CINES. Manum, c'est une quinzaine de personnes et puis on a un budget global de 2,8 millions d'euros par an qui sert en fait d'une part à alimenter les consortiums pour leur permettre de fonctionner, de travailler et qui d'autre part alimente évidemment les services qu'on va vous montrer et qui sont pour les utilisateurs finaux pour la plupart du temps gratuits. Donc en fait, le cœur un peu de l'activité du Manum, c'est cette partie centrale en fait. Hein. Toutes les sciences humaines et sociales, enfin tous les enseignants chercheurs, même des lettres et sciences humaines et sociales consultent des archives, font des enquêtes, traitent des données, ont des terrains d'investigation. Ils vont dans les bibliothèques, ils collectent de l'information, ils la rassemblent, ils la trient. Et pour ça, ils ont besoin d'outils parce que derrière, ils vont publier des articles, ils vont publier des ouvrages, ils vont publier de la donnée, ils vont fabriquer des bases de données, ils vont les rendre disponibles. Et ça va faire un cycle, en fait, de mise à disposition de l'information et des données qui va ensuite nourrir de futurs programmes de recherche. Et donc, c'est sur ce cœur central, sur cette activité centrale, qu'Humanum est positionné et met au point et met à la disposition des collègues, des services. Alors, il y a une évolution majeure ces quelques dernières années dans lequel Humanum s'inscrit de plus en plus. Hein, c'est que l'ensemble de nos services, maintenant, vont s'inscrire dans une politique de ce qu'on appelle les FAIR Data ou les FAIR Principles, c'est-à-dire qui participent, en fait. Hein, c'est une sorte de levier qui va nous permettre d'amener les données des lettres et sciences humaines et sociales dans un meilleur, j'ai presque envie de dire rendement, c'est-à-dire, mais pas rendement dans le mauvais sens du terme, mais rendement dans le bon sens, c'est-à-dire de savoir que les données existent quelque part, qu'elles ont été bien stockées, qu'elles ont été bien documentées, qu'elles sont bien réutilisables, avant tout pour des programmes de recherche. Et ça, c'est très, très important. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de passer d'une logique où les programmes de recherche ont tendance à fabriquer des silos qui sont un peu hermétiques les uns les autres, à un dispositif qui accompagne les programmes de recherche pour éviter cet effet silo où, en fait, au bout de quelques années, on perd la visibilité de ce qu'il y a dans les silos. Et en tout cas, les silos ne se voient pas entre eux. Donc, ça, c'est un aspect qui est déjà très fort, sur lequel on accompagne beaucoup les gens et qui va s'accentuer dans les années qui viennent, avec en particulier, et ça a été annoncé dans le cadre de la loi numérique et ça va se renforcer avec le comité pour la science ouverte qui va être qui va être lancé dans quelques semaines maintenant, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ouverture des données par défaut, hein, puisque la loi aujourd'hui, le cadre législatif en France, définit une ouverture par défaut des données. Et puis ensuite, il y a des exceptions quand on n'ouvre pas les données. Donc c'est un aspect qui va être très important et on y reviendra dans les années qui viennent parce qu'on va accompagner beaucoup plus les communautés là-dessus. Alors, on va balayer rapidement les services. On va faire un premier slot sur stockage et traiter les données. Alors, en termes de stockage, on a évidemment à Humanum plusieurs dispositifs de stockage. C'est l'intérêt des infrastructures de recherche, c'est que ce n'est pas un dispositif, c'est un ensemble de services et un ensemble d'outils à la disposition qui vont venir en fait nourrir des besoins qui vont être différents. Donc on va avoir des outils comme la Humanum Box qui va en fait correspondre à un type d'usage, c'est-à-dire une armoire pour les données volumineuses. Ça va être évidemment partageable. On va avoir là un haut niveau de sécurité des données et puis une très grande possibilité d'étendre les données. Et surtout, ce qui est important dans la Human Inbox, c'est que c'est un réseau distribué en fait, de stockage. Elles commencent un petit peu à fleurir en France. On les installe principalement dans les maisons des sciences de l'homme. Et l'idée qui est forte, l'idée sous-jacente pardon, qui est forte, et d'ailleurs j'ai été surpris ce matin à la réunion des TGIR, ça a été lourdement souligné, c'est qu'aujourd'hui on est dans une logique où on va arrêter de concentrer les données dans un endroit, parce que faire transiter des données qui sont de plus en plus volumineuses, c'est très compliqué. Et donc on est plus dans une philosophie où on va rapprocher le stockage de la donnée de là où sont les gens qui travaillent sur la donnée. Donc c'est la logique de la Human Inbox, c'est-à-dire que plutôt que de concentrer les données dans un seul data center, on va répartir la donnée, on va la mettre près des gens qui ont besoin de la travailler. En fait. Voilà. Donc la Human Inbox, c'est un premier dispositif. On pourra y revenir si vous avez des questions. Ensuite, ShareDoc, c'est ce qu'on pourrait appeler un stockage outillé pour les sciences humaines et sociales. Où là, on va être en mode Dropbox. Hein, on va mettre en œuvre une interface par le web avec un dispositif qui va être hébergé en France sur des serveurs, sur nos serveurs, donc à Lyon, à Villeurbanne en particulier. Et stockage outillé dans lequel là, on va avoir des services qui vont être du service de partage, d'édition, de traitement de la donnée à l'intérieur du dispositif. Et évidemment, c'est de fait un espace de travail qu'on va pouvoir partager à plusieurs enseignants-chercheurs, c'est-à-dire les membres de votre programme de recherche vont pouvoir avoir un espace sécurisé dans lequel ils vont pouvoir... traiter des données. Donc ça ressemble à ça, hein, pour vous faire une idée de ce qu'est ShareDoc. Donc c'est une interface web dans laquelle vous allez pouvoir glisser des documents, vous allez pouvoir gérer vos collègues et les partages de les qui va pouvoir voir quoi dans votre espace. Et puis il y a des petits outils d'édition hein, qui vont vous permettre de travailler sur un document Word, sur un document OpenOffice, visualiser des collections d'images, etc., qui sont directement embarqués dans l'outil. Et puis on est allé un peu plus loin. On a des outils à l'intérieur de ShareDoc qui sont des outils de transformation, transcodage de données, avec en particulier des outils autour de la vidéo, où là, plutôt que de faire la conversion de format de vidéo sur votre poste de travail ou dans votre laboratoire, vous pouvez le faire à distance, directement depuis l'espace ShareDoc. Ça vous évite de faire travailler vos machines là-dessus, puis ça se fait sur des serveurs assez puissants dans l'infrastructure Human. Puis à la fin du travail, ça vous envoie un petit mail pour vous dire venez récupérer le fichier, il est prêt. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, à la fois dans l'outil, dans le service ShareDoc, en particulier un outil de reconnaissance de caractère, d'OCR, qui vous permettent, en fait, hein, ça peut être très pratique pour des gens qui vont en bibliothèque, en archives et qui vont photographier avec un appareil photo ou leur téléphone maintenant des archives. Vous allez pouvoir les stocker directement dans ShareDoc et les faire la reconnaissance de caractère à distance, l'OCR à distance, et ensuite vous récupérez votre fichier Word avec le fruit de la reconnaissance de caractère. Et ça dans différents types de langues, y compris des langues non latines. En dehors des aspects de stockage, il y a à Humanum un certain nombre d'outils logiciels, de services logiciels qui sont à la disposition des communautés SHS. Et donc là, on a une gamme d'outils assez large, hein, des outils qui vont concerner le texte, des outils qui vont concerner l'image, la carte, les données géographiques, etc. Vous retrouverez sur notre site web la liste exhaustive, hein, complète des outils qu'on propose. Et ces outils-là, ils fonctionnent soit à distance sur nos serveurs, donc on vous donne accès à des espaces sur nos serveurs pour travailler, C'est le cas des outils comme RStudio Pro, RShiny, etc., qui vont permettre de faire de la data visualisation, du traitement de données à distance. Ou alors, ces outils-là vont fonctionner sur vos ordinateurs et vont se connecter en fait à un serveur de licence à distance et venir récupérer l'autorisation de fonctionner sur nos serveurs. Enfin, c'est des cas comme ArcGIS ou Oxygen en tant qu'éditeur XML qui va vous laver sur votre poste. Et puis, on vous autorise à distance à utiliser le logiciel. Voilà. Je passe vite. Donc voilà, ça donne ce genre de choses. Ça, c'est l'espace Shiny qui permet, avec donc, le langage R, de travailler de la donnée, l'afficher, la cartographier, etc. Donc, des outils autour du texte pour faire du travail d'analyse de texte. Alors, deuxième slot. La partie diffusion des données. Donc, à Humanum, vous allez pouvoir héberger des sites web, vous allez pouvoir avoir des machines virtuelles pour construire des systèmes d'information complexes dans lesquels vous allez venir installer vos logiciels, des logiciels que vous avez, par exemple, créés dans le cadre de votre programme de recherche. Donc, l'idée générale de notre dispositif, c'est qu'on va séparer, et plus le temps va passer, plus on va aller dans cette direction-là. On va séparer ce qui est de l'ordre du stockage de la donnée, on a tous besoin de stocker des données, de la partie exploitation, diffusion de la donnée, qui, elle, on va la considérer comme plus ou moins jetable à moyen terme, pour pouvoir ensuite avoir un socle de données documentées, c'est la colonne centrale, dans lequel on va pouvoir là fabriquer des produits documentaires, des sites web, etc., qui vont pouvoir venir s'alimenter dans les différents gisements de données qu'on aura créés. Et puis ensuite, il y a un troisième volet, qui est la colonne à droite, où là, on va avoir un dispositif pour signaler, pousser dans différents portails, comme Europeana, Gallica, OpenAir ou d'autres, les métadonnées qu'on aura fabriquées, les bases de données qu'on aura fabriquées. Alors, sur le silo central, un des dispositifs qu'on souhaite vous montrer, c'est le dispositif Nacala, c'est le service Nacala, donc qui est un outil de diffusion et d'exposition de documents. Et là, on est moins dans le travail collectif autour d'un objet où on est en train, dans le programme de recherche, de on va dire discuter autour des documents. Là, on est plus en train de préparer des données qu'on va documenter de façon normalisée pour pouvoir ensuite les rendre accessibles à d'autres, dans un site web, soit dans différents portails, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure, avec Europeana, Gallica, etc. Donc dans un cas-là, en fait, vous allez pouvoir gérer des collections de documents, vous allez avoir des métadonnées structurées, on va vous demander de décrire vos données, on va rajouter des outils pour des identifiants sur vos données pour pouvoir les rendre citables dans des publications. Et puis on va mettre tout en place tout un tas de connecteurs qui vont vous permettre ou permettre à d'autres d'exploiter les données que vous avez mises à l'intérieur. Alors là, c'est un exemple d'un programme de recherche qui est développé par le Centre franco-égyptien des temples de Karnak en Égypte, qui a déporté à Humanum toute sa documentation iconographique et qui ensuite a construit un système d'information au-dessus et qui éditorialise toutes les données qui sont dans un cas-là. Et donc l'enjeu, retenez que l'enjeu qui est très important aujourd'hui, c'est de séparer le stockage de la donnée, la documentation de la donnée, et l'exploitation d'une part, et d'autre part, l'exploitation qui en est faite derrière. Donc si on schématise un petit peu ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un cœur, il y a un silo en fait, à Humanum qui est Nacala, dans lequel on va pouvoir déposer les données, les documenter, ensuite on va les exploiter à l'extérieur, avec différents types de niveaux d'exploitation suivant ce qu'on a envie de faire. Et là, l'équipe Humanum, elle est assez à l'écoute en fait, des besoins des communautés, puisque autant on va vous encourager à inscrire vos données et vos bases de données dans un cycle qui va permettre de documenter, normaliser les données, autant on va être complètement à l'écoute de vos besoins en matière d'exploitation. C'est-à-dire que si vous arrivez, il y a des collègues qui arrivent avec un dispositif déjà tout fabriqué, d'autres collègues qui arrivent qui ont besoin de fabriquer un outil, etc. Donc hein, là, on va être un peu à l'écoute. C'est-à-dire que toute la partie qui est à droite, hein, on va la travailler avec vous, hein, on va, pour la mise en œuvre. Alors, on a, pour aider les gens, on a développé autour du logiciel Omeka un dispositif qui est complémentaire à Nakala, qui permet depuis le logiciel Omeka, hein, qui est un logiciel pour fabriquer des bibliothèques numériques, hein, des collections numériques en ligne, qui permet de fabriquer à la volée des expos virtuels, des choses comme ça. On a mis au point une passerelle avec notre conteneur de données, notre plateforme Nakala. Et donc là, ça, c'est une solution clé en main, si vous voulez, où vous avez à la fois un outil web pour faire de la diffusion et puis le bon outil de stockage qui est Nakala, qui lui est stable, géré par l'équipe de la TGIR, etc. Donc ça permet très rapidement, en mettant quelques données et quelques métadonnées, de fabriquer des expos virtuels, un site web, hein, pour présenter des données et des documents en ligne, et de façon assez normalisée, et en s'inscrivant dans une logique de faire data, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on va avoir un moteur de recherche, et puis on va pouvoir inscrire ainsi ces données dans différents portails documentaires. Et à la fin, on va pouvoir placer ces données dans différents moteurs de recherche. Alors à Humanum, on en fait un, qui est la plateforme Isidore, qui signale un peu plus de 5 millions de données spécialement dans le domaine des sciences humaines et sociales, et qui collecte ainsi plus de 6 000 bases de données et gisements de données à l'intérieur, dans lequel vous allez retrouver à la fois des publications électroniques, c'est-à-dire qu'on va collecter tout ce qui vient de Percé, de Revue.org, de HAL, de Erudit, des plateformes de revues électroniques. Et puis, on va mélanger ça avec des bases de données, des sources de la recherche. Parce que quand un enseignant-chercheur travaille, en fait, et qu'il entame un nouveau champ de recherche, bah, finalement, il a besoin à la fois de voir quelles ont été les publications qui ont été faites sur cette thématique, mais aussi les données qui sont disponibles. Donc là, on a un point d'accès unifié à l'information. Et ce point d'accès unifié à l'information, en fait, il permet de relier les données entre elles, de les enrichir et de pouvoir avoir un accès, en fait, hein, par requête, directement sur donc, hein, plus de 5 millions de documents, enrichis, reliés entre eux, etc. Alors, un des aspects qui est important dans tout ce qu'on fabrique, et en particulier dans Isidore, c'est de décloisonner les bases de données, les silos, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en créant ce qu'on pourrait appeler de la glue, de la colle entre les données, pour vous permettre, en fait, et pour permettre aux enseignants-chercheurs qui travaillent dans telle thématique de pouvoir très très rapidement embrasser un ensemble de documents assez exhaustifs. Voilà. Et dans le cas d'Isidore, on le fait en 3 langues, en anglais, en français et en espagnol. Ce qui fait que sur un document en français, on va avoir des enrichissements en anglais et en espagnol qui vont pouvoir être affichés par l'utilisateur. Ce qui fait qu'un non-francophone va pouvoir avoir quelques concepts qui vont lui attirer l'œil et dire « Tiens, ce document, il est intéressant pour moi. Je ne lis pas le français, mais ça vaut peut-être le coup que je le fasse traduire. Hein, » Donc, c'est un outil, quelque part, aussi de promotion de la production française en langue étrangère. Sur ce, on a balayé très vite les services de la TGIR. Je vais passer la parole à ma voisine qui, dans le cadre des projets, alors là, c'est les projets ENR, mais dans le cadre des projets, de vos programmes de recherche, c'est à peu près pareil, on va vous donner quelques conseils.
Donc, en fait, Stéphane a oublié de se présenter. Donc, c'était Stéphane Pouillot, le directeur technique du Manum. Et moi, je m'appelle Elif Soussabounjou et je m'occupe des usages des services du Manum et donc des utilisateurs pour, d'une part, faire remonter les besoins, adapter les services, les faire évoluer et en faire l'information et la promotion. Donc, effectivement, là, on avait préparé ces diapos pour l'ANR, mais en fait, c'est valable pour tous les programmes de recherche. L'idée, c'était de dire, en résumé, qu'il faut anticiper le plus possible. notamment pour travailler avec nous, pour bénéficier des services du Manum. Non pas que ça soit trop tard un quelconque jour, mais c'est juste que vous serez mieux armé si vous avez toutes les infos avant et que vous mettez en place les structures avant d'être à la veille de la fermeture des projets. Je dis ça parce que ça arrive souvent que les gens nous écrivent vers la fin des budgets, vers la fin des programmes, des financements, en disant on doit rendre quelque chose dans 3 mois en boucle, on doit créer un site web, bon, faire le rapport, c'est normal, mais créer le site web, laisser quelque chose de visible, montrer, et donc est-ce qu'on peut tout vous envoyer et mettre en ligne. Et donc c'est pas idéal. Voilà. Donc pour anticiper, prendre contact avec nous, mais ça veut dire aussi anticiper encore avant, au moment où vous écrivez les projets de recherche, anticiper en termes de budget. Si vous voulez un site web à la fin, bon déjà vous pouvez l'avoir en cours de projet, pas nécessairement à la fin, mais un site web, même si sa technologie était une technologie ouverte et donc gratuite comme WordPress, c'est quand même pas gratuit de créer un site web parce qu'il faut l'adapter à vos besoins, le personnaliser, le paramétrer. L'hébergement, éventuellement, il sera gratuit parce qu'il sera chez nous. Mais souvent, on nous dit on veut un site web. Et en fait, ils ont vu des WordPress et ça avait l'air d'aller. Mais en fait, on veut que ça soit vraiment adapté à un programme de recherche et que ça prenne en compte les différents formats de documents qu'on a, des bases de données, des photos, des vidéos, des cartes, et qu'on veut que plein de gens puissent se connecter en même temps, des chercheurs de différents endroits, et modifier les documents et s'en servir et géolocaliser certaines choses. C'est plus juste un WordPress gratuit, ça commence à devenir un... Et c'est pas juste qu'on appellerait un site web, c'est vraiment un outil de recherche, c'est pas forcément qu'une vitrine à la fin. Et d'ailleurs, il faut finalement, comme disait Stéphane, c'est ça que ça veut dire concrètement, séparer le stockage de ces formes de valorisation. Ça veut dire ne pas penser seulement à quelle tête ça doit avoir à la fin pour être joli et utilisable. C'est comment ça peut me servir pendant ma recherche pour m'aider à la recherche, être un outil en soi de recherche. Et où est-ce que je stocke les données et sous quelle forme je les documente pour pouvoir les réutiliser. Et une des formes d'utilisation peut être un site vitrine ou un site qui permet de faire de la recherche. Mais il faut séparer un peu la question de où est-ce que je stocke et sous quel format mes documents pour pouvoir m'en resservir après, éventuellement donner l'accès ensuite plus tard à beaucoup plus de monde. Mais ce n'est pas la priorité, c'est juste que si de toute façon nous-mêmes on veut pouvoir s'en resservir, il faut les documenter et les mettre au bon endroit. Donc voilà, la question de budget, on peut vous aider à ce niveau-là. Vous pouvez nous envoyer, pour l'instant on le dit parce qu'on n'est pas encore surchargé, mais si tout le monde commençait à vraiment le faire sérieusement, on n'aurait pas assez de bras et de yeux pour s'en occuper. Mais vous pouvez nous envoyer, alors pas tout le projet, s'il est trop long, mais un résumé du projet, essayer de nous expliquer ce que vous voulez faire pour qu'on puisse vous aider au moins dans ce que vous avez prévu d'un point de vue technique, d'un point de vue prestation, d'un point de vue réalisation numérique, de savoir si c'est adapté, si vous vous êtes posé les bonnes questions, et on peut vous aider à ça. Une question à se poser importante et qui a un impact du coup en termes de budget, c'est de quelles compétences techniques vous avez besoin, vu ce que vous voulez, et auxquelles vous avez accès en interne, soit au niveau du laboratoire, de l'unité de recherche, de l'université, ou un peu plus loin, peut-être au niveau d'une MSH ou une autre structure mutualisée qui vous donne accès à des compétences techniques. Si ce n'est pas le cas, ça voudra dire passer par un ingénieur, des prestataires ou embaucher quelqu'un. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut à nouveau se poser la question de savoir qu'est-ce qui est plus malin, de prendre des prestations différentes ou embaucher quelqu'un en interne. Et l'idée, en gros, c'est de ne pas considérer un thésard ou un postdoc sous prétexte qu'il a l'air de s'y connaître en numérique, qu'à côté de sa recherche, il fera bien la base de données. Si ça fait partie de son programme de recherche, bien sûr, mais parfois, voilà, on peut être tenté de se dire le postdoc, il fera ça à côté, mais en fait, c'est un vrai boulot qui nécessite du développement selon les ambitions qu'on a. Donc j'ai un peu dit ce qu'il y avait dans les diapos dans le désordre, je crois. Donc voilà, définir ses besoins techniques, c'est en termes de voilà, ne pas dire juste un site web, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Un site un peu institutionnel qui n'existe que pour montrer qu'on existe, c'est effectivement assez simple. Mais si on veut qu'il y ait des fonctions un peu poussées, que ça soit une plateforme de recherche qui permette de travailler ensemble, c'est autre chose. Et là où le rapport avec l'anticipation, c'est que si vous vous posez les questions en amont, c'est-à-dire pas à la fin du programme où j'ai plein de documents, je vous les envoie, vous les mettez en ligne, c'est que vous allez pouvoir faire les bons choix de format pour tous vos documents numériques pour que ça soit interopérable avec les services ensuite, avec les différents services internationaux et notamment la possibilité de diffuser, signaler vos corpus en ligne et qu'ils puissent être retrouvés par des moteurs de recherche comme Isidore ou d'autres. Et pour ça, il faut être interopérable, donc en gros avoir rempli les bons champs dans les bons formats. Donc tout ça, je l'ai déjà dit. Finalement, ça aussi. Le point que je voulais préciser aussi par rapport aux développeurs, c'est qu'à un moment, quand on veut un site web et que donc on a compris qu'on voulait un truc un peu compliqué avec beaucoup de fonctions, on pense donc développement. Mais parfois, on peut aussi avoir besoin de quelqu'un qui va vous accompagner dans la définition précise des besoins, c'est-à-dire qui sera un peu l'intermédiaire, la traduction de vos besoins opérationnels, fonctionnels, en besoins techniques. Donc c'est l'écriture du fameux cahier des charges techniques peut ne pas être une compétence quotidienne d'un chercheur en sciences humaines ou même d'un chercheur en physique. Il faut pouvoir parler avec le développeur et donc vous pouvez avoir besoin d'un autre type de prestation que du développement pur et donc de faire appel directement à une entreprise de développement informatique. Et pour toutes ces questions, du coup, quand vous faites faire des devis, quand vous recevez des devis pour arriver à évaluer ce qui a été pris en compte, le tarif jour, le nombre de jours qui a été compté et les profils des personnes qu'on met à votre disposition, on peut aussi vous aider à un peu y voir clair. Donc ça, c'était, je pense, le résumé un peu. De ce qu'on propose ici, donc séparer stockage et traitement, on a des services auxquels vous pouvez faire appel, si on résume, vous pouvez vous intégrer, on peut vous rapprocher de certains consortiums selon les types de choses sur lesquelles vous travaillez d'un point de vue disciplinaire ou méthodologique, ça peut valoir le coup de savoir ce qui se fait déjà et de s'intégrer dans des groupes de travail qui travaillent déjà, et pour avoir accès à nos services, tous les services que Stéphane a présentés, il y a une adresse mail tout en bas, donc à gauche, pour demander l'accès au service, soit directement l'accès au service en disant « j'ai tout bien compris, moi ce qu'il me faut c'est un share doc aujourd'hui », ou pour engager une discussion sur « j'ai un projet de recherche, j'ai compris ce que vous avez, mais je ne sais pas exactement ce qu'il me faut par rapport à ça ». Et donc ça, c'est la diapo qu'on laisse pour faire joli. Et on prend vos questions maintenant.